Bonjour à toutes et à tous, moi-même, Robin et Damien Dies, nous vous souhaitons la bienvenue sur ce 7e hors-série qui, pour la première fois, ne parlera pas de jeux vidéo, mais de dessins animés des années 70-80, avec pour commencer cette sélection, le chien détective le plus célèbre, Scooby-Doo.
Oui, t'as pas fini de dire tes prières, hein? Bon, essayons de dormir, alors.
Oui.
J'ai encore une petite prière.
Il s'agit sans aucun doute du plus célèbre personnage de William Hanna et Joseph Barbera, et toujours multidiffusé sur les réseaux animés spécialisés rétro. Depuis plusieurs générations, ce grand classique nous propose une chasse aux fantômes, et chaque épisode suit à peu près le même schéma. Un groupe d'adolescents babacool se retrouve confronté, bien malgré eux, à des phénomènes étranges et mystérieux. Fred, Daphné et Vera étant toujours prêts à résoudre des énigmes, ce qui n'est pas vraiment le cas de Sammy et Scooby-Doo qui préfèrent s'empiffrer et se tenir à l'écart du danger. D'ailleurs, Sammy n'aura qu'un seul objectif, retourner chez son beau-frère.
Eh ben pas moi, je préfère encore retourner chez mon beau-frère.
La lettre ressemblait à une grosse citrouille. Combien on a chez mon beau-frère?
Ce dessin animé était d'une telle popularité qu'il fut décomposé en plusieurs séries, comme par exemple Scooby-Doo, où es-tu? Les grandes rencontres de Scooby-Doo, Les 13 fantômes, Scrappy-Doo et j'en passe.
T'inquiète pas, je ne vais pas t'abandonner à ton triste sort. Hein. Au premier signe de danger, tu tires sur cette corde et j'arrive.
Il y a quelque chose, quelque chose!
Cobra est à l'origine d'un manga de Buichi Terazawa, dont la publication débuta à la fin des années 70. Le succès étant au rendez-vous, la BD fut adaptée en animé au début des années 80. D'abord sous la forme d'un long métrage, suivi très vite d'une série télé d'une trentaine d'épisodes. La série nous narre les aventures de Cobra, un mercenaire de l'espace accompagné de sa fidèle Armanoïde ou Lady en VO. Ensemble, ils luttent contre les pirates de l'espace, sorte d'organisation mafieuse, cherchant à dominer la galaxie.
Peut-être que vous venez me donner une petite récompense.
Outre le fait d'avoir une force et une résistance surhumaines, Cobra possède une arme redoutable greffée dans son avant-bras gauche et astucieusement dissimulée sous une prothèse. Il s'agit d'un rayon Delta, en VF, ou Psycho Gun, en version originale, dont la trajectoire du tir peut être déviée par la pensée de son propriétaire. Petite anecdote, l'auteur du manga a avoué s'être inspiré de Jean-Paul Belmondo pour la création du héros. Les paroles du générique français furent écrites par un certain Paul Persavon, qui était en réalité Antoine Decaune. Série cultissime des années 80 et dotée d'une réalisation qui fera pâlir bien nombre de séries animées récentes, Cobra fut d'abord diffusée sur Canal+, avant d'arriver sur Antenne 2 dans l'émission Récré AB. Une nouvelle série télé et de nouveau OAV, Original Animation Video, furent produits récemment. Et si tout va bien, Cobra serait bientôt adapté en film live. Diffusé vers la fin de l'année 1983 dans Récré à 2, les devinettes d'Épinal étaient ce que l'on appelle une séquence animée. Ce programme d'une quinzaine de minutes nous proposait une série d'énigmes visuelles où il fallait trouver un motif subtilement caché dans les éléments du décor en un minimum de temps. Les mises en scène étaient de toute beauté et la transposition télévisuelle des fameuses images d'Épinal de Jean-Charles Pellerin était extrêmement fidèle. Ce genre de jeu interactif n'en était qu'à leur balbutiement, mais cette séquence laissa de magnifiques souvenirs, même si elle ne fut pas rediffusée.
Les proches chevaliers défilaient sous le regard des nobles dames. Je suis le plus beau.
Diffusée sur Antenne 2 vers le milieu des années 80, Les Maîtres de l'Univers est une série américaine créée à partir d'une gamme de jouets sortie un peu plus tôt. Mélange d'héroïque fantasy et de science-fiction, Les maîtres de l'univers nous racontent les aventures du prince Adam d'Eternia aux prises avec l'ignoble Skeletor, qui veut s'emparer du pouvoir du Château des Ombres et régner sans partage sur Eternia. Le prince Adam possède une identité secrète qu'il n'utilise que lorsqu'un danger arrive. À ce moment-là, il brandit son glaive et prononce la formule magique suivante.
Par le pouvoir du crâne ancestral.
Et ainsi, le prince timide et pleutre laisse la place à Musclor, dont la force prodigieuse met constamment en déroute Skeletor et sa bande d'affreux. Suite au succès de la série, un spin-off mettant en scène She-Ra, la cousine de Musclor, sera produit. Puis un long métrage animé réunissant les deux héros verra le jour. Adaptation du manga de Tetsuo Hara et Buronson, la série animée Okuto no Ken, ou Ken le survivant en français, fit couler beaucoup d'encre et d'hémoglobine lors de sa diffusion sur TF1 dans le Club Dorothée dès 1988. L'action se déroule dans un monde post-apocalyptique situé à la Troisième Guerre mondiale. Les forts oppriment les faibles et les gens s'entretuent pour de l'eau et de la nourriture. Mais tout espoir n'est pas perdu, car un homme va se dresser et rendre la justice avec ses pieds et ses poings. Il se nomme Kenshiro, et il est l'héritier d'un art martial deux fois millénaire appelé le Hokuto Shinken, et qui consiste à presser les points vitaux de l'adversaire afin de le faire exploser de l'intérieur. Face à la violence de la série, les pseudo-bien-pensants firent un lever de bouclier, à commencer par les doubleurs, qui arrêtèrent le doublage et ne le reprirent qu'après avoir obtenu de pouvoir faire leur propre adaptation des dialogues, ce qui donna des jeux de mots consternants avec des voix débiles et un véritable massacre de l'histoire originale.
Attaque Nanto, le poing du guerrier dans la figure! Attaque au couteau, coup de pied volant avec pointure! J'ai touché tous les points vulnérables de ta poitrine.
Tous?
Ils vont exploser lentement les uns après les autres.
Oh non, pas les points, pas les points!
Attaque au petit couteau sinueux et torturé!
Comment as-tu fait?
Je peux pas te le dire.
Mais ce n'est pas tout. Suite aux plaintes des familles de France au Club Dorothée et au CSA, Ken le survivant fut déprogrammé bien avant son épilogue. Plusieurs films animés et OAV de qualité furent produits par la suite, ainsi qu'un film live avec Malcolm McDowell, qui, par un manque évident d'idées et de moyens, est un véritable navet.
Le château Mordicus, c'est l'antre séculaire d'une dynastie de cruels canards vampires, les comtes Mordicus.
Et voici le comte Mordicus, dernier descendant d'une lignée de canards vampires ramenés parmi les vivants grâce à une potion magique dont l'un des ingrédients principaux, à savoir le sang, fut remplacé malencontreusement par du ketchup. On vous laisse imaginer le résultat. C'est donc le premier vampire végétarien, véritable déshonneur pour ses ancêtres. Réalisé en 1988 au Royaume-Uni, Count Dracula, en version originale, est une parodie de Dardar Motus, dont Mordicus faisait partie.
Tu veux dire Tchaïkovski, nounou ?
Non, je veux dire un pianiste, j'aurais pas retrouvé son nom.
Mais ce qui a marqué les esprits, c'est surtout son atmosphère étrange, lugubre et bourrée d'humour noir, nous laissant une sensation de malaise à chaque fin d'épisode.
C'est horriblement cher.
Les livres, ça n'a pas de prix, Igor.
Son côté British Underground en a rebuté plus d'un. Mais il fait tout de même partie des classiques de la fin des années 80, après sa diffusion sur Canal+, en 88, dans Kaboukadin.
Nous souhaitons la bonne nuit au dernier des braves vampires, ainsi qu'à vous, qui que vous soyez.
Voici le Muppet Show avec notre invité ce soir, Candice
Bergen. Le Muppet Show est une série télévisée américano-britannique créée par Jim Henson et diffusée sur Antenne 2 à partir de 1977. Cette série compte 120 épisodes étalés sur 5 saisons. La présentation est assurée par Kermit la Grenouille, qui n'est autre que le directeur du théâtre. Chaque épisode est une succession de sketchs et de numéros musicaux réalisés par la troupe des Muppets, ainsi qu'un invité du jour issu principalement du show business américain.
Qu'est-ce qu'il y a 30 pattes de gêne et qui court dans les prés? Une équipe de rugby!
Les personnages principaux sont Kermit, présentateur et directeur, Gonzo, le mal-aimé, Scooter, le neveu du propriétaire du théâtre, Piggy la cochonne qui se considère comme la meilleure, le chef suédois et ses recettes explosives, Stettler et Waldorf, les vieux gâteux toujours en train de se plaindre, et sans oublier Fozzie, l'ours aux blagues intellectuelles.
C'est aussi marrant jamais, hein.
C'est vrai.
Oui. Oh merci, merci, vous aimez les gars intellectuels, alors. Merci, 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 je retourne chez mon beau-frère.
Bon, alors où il est parti?
Chez son beau-frère.
Ah oui, c'est le seul qui arrive à faire rire.
Encore une fois, on retrouve le trio de doubleurs légendaires, à savoir Francis Lax, Gérard Hernandez et Roger Carrel, sans oublier la talentueuse Micheline Dax qui prête sa voix à Miss Piggy.
Il y a quelle crotte derrière la prête? Il y a quelle crotte à la prête?
Il voulait dire il y a quelqu'un qui prête à la frotte. Attention, hein.
Oui, oui, il y avait quel coin à la perte? Oh,
ça dépend de son impresario.
Plus de 30 ans après sa création, les premières saisons du Muppet Show se regardent toujours avec autant de plaisir. La qualité de la mise en scène était exceptionnelle, malgré son côté un peu kitsch vu de nos jours.
C'est pas comme celui de la semaine dernière. Non seulement il était pas bon, mais en plus il était pas venu. Intellectuel.
Il est marrant cet ours, ça, il était hurlé de rire, c'est mon beau-frère. Dites donc, je vous réveille avant Montélimar.
Eh, le bon frère, si ça t'ennuie pas, laisse-moi travailler.
Laisse-le parler, il est plus drôle que toi.
Exagéré, on n'est tout de même pas fait. Pour travailler comme des damnés, il faudrait inventer le collège Foufou.
Le collège Foufoufou est sans conteste l'un des dessins animés les plus drôles de tous les temps. High School Kimengumi est l'œuvre de l'auteur japonais, d'origine japonaise, Motoi Shinzawa. Cette petite merveille a été diffusée pour la première fois vers la fin de l'année 89 dans le Club Dorothée. Il nous raconte la vie mouvementée des collégiens et tout commence lors de l'arrivée de Laura qui va vite s'apercevoir que son nouvel établissement est rempli d'énergumènes en tout genre, dont une bande qui fait l'unanimité, les Joyeux Loufoques, avec à leur tête Rei Ishido, toujours prêt à faire le mariole avec ses copains.
Descends de là, tu as perdu.
Allez tout, je n'ai pas mis pied à terre, je vous signale.
Descends de là, j'ai dit. Mais à quoi il joue?
Il n'y a pas à dire, il est vraiment doué pour le sport.
Oui, ça c'est bien vrai.
Le groupe est composé de Jim, le glouton, Jano, l'obsédé de service, Dan, l'efféminé, et Ted, le lutteur alcoolique.
Ajouter une difficulté supplémentaire.
Ça va, monsieur.
Les profs aussi en tiennent une sacrée couche avec une mention spéciale pour Monsieur Jida, le prof de gym super orgueilleux.
Bande d'imbéciles, j'ai dit quand je crierai, là j'ai juste dit hop en sautant.
Oh, mais...
excusez-nous.
Diffusé pour la première fois en France en 1986 sur Recréa 2, Dungeons & Dragons, ou si vous préférez Le Sourire du Dragon, était la série animée préférée de tous les rôlistes en culottes courtes. Lors d'une attraction, une bande d'amis se retrouve téléportée dans un univers héroïque fantasy rempli de dragons et de magie. Avec l'aide du grand maître, ils devront tout mettre en œuvre pour retourner dans leur époque. Ce dessin animé a la particularité de ne pas avoir ni de début ni de fin. En effet, c'était le générique, chanté par Dorothée, qui servait d'introduction pour comprendre comment le groupe d'adolescents en était arrivé là. Quant à la fin, une ultime saison aurait dû voir le jour pour savoir si nos héros pouvaient enfin rentrer chez eux. Les épisodes se finissaient toujours de la même manière. Après avoir déjoué les pièges de vengeurs, nos six héros laissent filer l'occasion de rentrer à la maison.
Mais je sais.
Et on a perdu une nouvelle chance de rentrer chez nous.
Il y aura sûrement d'autres occasions.
Mais oui.
Sans oublier les phrases énigmatiques du grand maître, pleines de bon sens.
Tu en es même plus près que tu ne crois. Car le foyer est le reflet du cœur et un reflet que chacun d'entre nous doit comprendre un jour.
Lady Oscar, ou Versailles Nobara en japonais, est une série de 40 épisodes réalisés par le studio TMS. L'histoire se déroule dans le Paris du XVIIIe siècle et s'étale du couronnement de Louis XVI et Marie-Antoinette jusqu'à la fin de la Révolution française. L'héroïne, Oscar, portait un prénom d'homme, car son père, souhaitant un garçon, l'éleva comme tel. Elle deviendra capitaine de la garde royale pour finalement se ranger du côté du peuple. Datant de 1979, la série n'a pas pris une ride et véhicule toujours autant d'émotions. Même si la série prend pas mal de liberté avec l'histoire, elle reste un moyen ludique de suivre les événements qui ont conduit à la Révolution française. Les paroles du générique français sont signées par le fameux Paul Persavon, alias Antoine de Caunes. Ulysse 31 est une libre adaptation de l'Odyssée d'Homère. Nous y retrouvons dans les grandes lignes les aventures d'Ulysse transposées au 31e siècle. Cette fois-ci, notre héros est accompagné de son fils Télémaque, de Thémis, qui est une sorte d'extraterrestre avec des pouvoirs de télékinésie, et de Nono, le petit robot friand de petits clous. 31e siècle oblige, l'action ne se déroule plus sur un bateau perdu sur l'océan allant d'île en île, mais sur un vaisseau, l'Odysseus, perdu dans l'espace, allant de planète en planète. Après avoir terrassé le Cyclope, créature de Poséidon, Ulysse va subir un grand nombre d'épreuves imposées par les dieux de l'Olympe, avant de pouvoir retourner sur la Terre et ainsi sauver ses compagnons plongés dans un coma profond.
Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes.
Cette série compte 25 épisodes, qui ont été diffusés pour la première fois en 1981 sur FR3.
Vous êtes vivant.
Ok, beau gâteau, merci père.
Ulysse 31 fut pensé par un Français, Jean Chalopin, qui est à l'origine de nombreuses séries cultes des années 80.
Coucou, je suis la surprise. Bonjour, c'est
Télémaque. Je te présente Nono, ton robot.
Ulysse 31 n'a pas pris une ride grâce à la grande qualité de son design et de son animation.
Bienvenue au manoir des Croque-Monstres.
On continue ce hors-série avec les Croque-Monstres ou Croque-Monstres Show, réalisé aux États-Unis sous le nom de The Groovy Ghoulie au début des années 70.
Pas étonnant que j'ai la grosse tête.
Dénombrant un total de 31 épisodes, ce modeste dessin animé n'a pas été multidiffusé durant les années 80. Et pourtant, il marqua les esprits à de nombreux enfants de la génération Albator. Les Croque-Monstres relatent la vie de château d'une bande de créatures saugrenues qui sont les caricatures des plus célèbres monstres de la Hammer. Dracu, alias Dracula, Tilou, le loup-garou, la momie et Frankie, avec sa réplique fétiche.
Hey, ça fait du bien par où ça passe.
Tonton Dracu, tu as quel genre de plantation dans ton jardin en Transylvanie?
Oh, c'est évident, des transplantations.
Comme dans la plupart des dessins animés des années 70, le doublage fut confié à la Dream Team de l'époque, Francis Lax, Roger Carrel et Gérard Hernandez.
Faites donc ce que vous avez à faire, s'il vous plaît.
Au moins, il me plaît toujours, mais c'est l'autre tête qui me déplaît quand ça me plaît de faire ce qui me plaît, n'est-ce pas?
Et ça ne me déplaît pas de lui déplaire en plus. Montrez-nous votre langue. Oh, elle est d'un vert moisi parfait.
Son humour omniprésent était une véritable mine de gags et de calembours, dont les subtilités étaient parfois difficiles à assimiler pour les plus jeunes d'entre nous.
Qu'est-ce que le bedeau de Notre-Dame doit faire quand il a mal à la gorge?
Il gargouille et ça lui file le bourdon.
J'ai une très mauvaise circulation, je sors de chez mon médecin, et il m'a dit que j'avais les vaisseaux fantômes.
Encore plus déjanté que le collège Foufoufou, si si, c'est possible, voici Muscleman, diffusé bien entendu dans le Club Dorothée à la même époque durant l'année 89.
Ni le vent l'hiver, ni le soleil d'été. Hey !
Kinnikuman, en VO signifiant l'homme musclé, nous raconte comment le prince Suguru échappe à son destin de prince héritier après avoir été balancé dans les poubelles d'un vaisseau spatial, et par son père en plus.
Muscleman,
Après avoir atterri sur notre bonne vieille planète, il décide de devenir un super-héros avec l'aide de Mitsu, qui deviendra par ailleurs son entraîneur privé pour devenir lutteur professionnel. Et c'est loin d'être gagné. Kinnikuman est bien entendu une caricature humoristique d'Ultraman, créée en 1966 par la boîte Tsubaraya, grande rivale avec Toei Animation.
Vite le rayon ! Oh bravo, Ultraman, vous êtes en gâteau !
C'est vrai, ignophile !
Vous avez tout compris !
Ce fut aussi le premier dessin animé à avoir été déprogrammé par le CSA suite à l'arboration d'une croix gammée par le lutteur Broken Man Jr. alors que celui-ci était passé du côté des gentils. S'il ne fallait citer qu'une seule série sportive qui marquait les années 80, ce serait sans conteste Olive et Tom, ou Captain Tsubasa en VO. Diffusée dans l'émission Youpi, l'école est finie, sur Feu la 5 de Berlusconi, la série nous a fait suivre l'évolution d'un jeune prodige du ballon rond, Olivier Hatton, de ses débuts dans une petite équipe régionale jusqu'à la sélection dans l'équipe nationale du Japon. La force de la série était d'attirer aussi bien les fans de foot que ceux qui ne l'étaient pas, grâce à des personnages charismatiques et une mise en scène épique des matchs. Tout le monde se souvient des terrains qui faisaient 10 km de long, ainsi que des tirs acrobatiques ou surpuissants qui trouaient les filets. Bien que bénéficiant d'une réalisation moyenne, la série devint culte. Stephen Chow s'inspira grandement de Captain Tsubasa pour son Shaolin Soccer, et de nos jours, certains joueurs de foot professionnels ne cachent pas leur admiration pour cette série qu'ils regardaient enfant. Immense succès durant les années 80, Tom Sawyer No Boken est l'adaptation du célèbre roman de Mark Twain.
Il est né sur les bords du fleuve Mississippi.
Qui aurait cru à l'époque que c'était des Japonais à l'origine de cette série, tant cette adaptation est fidèle au roman sur tous les points de vue. Cette série nous raconte les aventures trépidantes de Thomas Sawyer, qui habite chez sa tante, et de son meilleur ami, Huckleberry Finn, un vagabond monoparental dont le père est alcoolique.
Tournez-vous, 10 coups de badine à chacun pour vous apprendre la politesse et l'obéissance.
Dénombrant 49 épisodes, ce dessin animé est un dépaysement total, avec des personnages attachants, des décors magnifiques et un scénario rempli de rebondissements.
Tom Sawyer, c'est nous tous un ami.
Bref, les journées et les nuits du petit Tom sont plutôt bien remplies. On se souviendra entre autres de la fameuse scène avec Joe l'Indien dans la petite maison abandonnée.
C'est passé, ça va?
Oui, je le crois. L'escalier s'est effondré sous moi.
On finit en beauté cette sélection avec un magnifique long métrage animé de 90 minutes, Le vol des dragons, diffusé durant les fêtes de Noël en 84, 85 et 87.
Corbache! Corbache! Viens!
Les enfants qui ont eu la chance de le voir à cette époque ont gardé un souvenir mémorable de par sa réalisation soignée, la richesse du scénario et son origine passionnante et complexe à la fois. Résumer ce dessin animé serait beaucoup trop long à expliquer. Mais pour vous éclairer un peu, Le Vol des Dragons reprend l'œuvre originale de Gordon R. Dixon, Le Dragon et le George, auquel a été ajoutée les recherches scientifiques de Peter Dickinson. Il nous fait aussi réfléchir sur une question existentielle, à savoir si l'humanité voudra choisir entre un monde magique ou scientifique.
Non, cela ne doit pas être. Il faut que le monde de la magie et le monde de la logique vivent côte à côte sans se détruire l'un l'autre. Regarde tout en bas, Gorbache, mon ami. Sur la planète Terre, juste en dessous de nous, règne le chaos et la confusion. L'humanité toute entière se trouve devant un choix historique. Un monde magique ou un monde scientifique? Lequel va-t-elle choisir?
C'est sur ces belles paroles que ce hors-série s'achève, en espérant que vous avez bien aimé. On se retrouve très prochainement pour un épisode Formule Classique. À très bientôt sur Rétrovision.